Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, très heureux de vous retrouver même pour ce Croque le Club. On vous avait accompagné tout au long de l'année dernière pour cette grande émission dédiée à l'émission Croque Vacances, à l'occasion de la sortie du livre Au pays de Croque Vacances de mon ami Arnaud Magnier. On avait fait d'essayer de faire un petit break pour laisser reposer la formule. Croque le Club revient donc en 2026, toujours avec Arnaud Magnier.
Eh oui,
Ça va?
bonjour tout le monde, salut
On est
Alexandre.
ravis de te retrouver évidemment, avec une petite évolution de l'émission, puisque désormais on va s'intéresser aux coulisses de la télévision et à vos souvenirs télé, remonter dans les grandes émissions qui ont fait les grandes heures de la télévision, les émissions, mais pas simplement, parce que, allez, quasiment 2 jours près, à l'heure où on publie cette émission, on fête les 40 ans de la naissance d'une chaîne qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelle La 5.
Voilà un petit indice
Et un petit
vestimentaire
indice,
que
voilà,
nous
que j'ai là
portons
aussi avec
chacun.
le petit pins. La 5, c'est une chaîne privée, alors qu'il n'y avait que des chaînes publiques
C'est ça,
autour
absolument.
sur la télévision française.
Oui, elle a changé le paysage audiovisuel français, effectivement, parce qu'il y avait l'arrivée de Canal+, après
En
TF1, Antenne 2 et
84.
FR3, Canal+, en 84, mais c'était en clair et souvent crypté. Et donc la 5 est arrivée à tout chambouler, effectivement, en libérant ce canal. Ils ont ouvert le robinet à des séries, à des émissions cultes, et on s'est dit, pourquoi pas croquer un petit peu tous ces souvenirs. Et c'est difficile de tout mettre dans une seule émission,
Il y en aura
mais
d'autres, vous nous connaissez, il y en aura d'autres.
voilà, et puis bon, on va se faire plaisir, il y a quand même, vous me connaissez aussi, j'ai mon sac à pépites là un petit peu, donc
Il y
j'en
a du
ai.
lourd,
Ouais, il y
il
a
y a
du
du, il y a
lourd, il y
du
a du
lourd.
lourd.
Croque la 5 dans cette émission de Croque le Club. On va évidemment vous dérouler pendant une petite demi-heure ces pépites. C'était donc le 20 février 1986 que la 5 arrive sur le canal aujourd'hui occupé par France 5, évidemment. Et avec l'inauguration très original,
Ouais.
là encore, t'as fait fort pour commencer cette émission. Alors, je vous propose de découvrir ce petit morceau, et puis on en parle juste
Et
après.
sans trucage, attention, c'est pas redoublé, c'est
Non,
la vraie voix,
c'est la
voilà,
vraie voix,
pour vous
voilà,
mettre
je vous
sur
dis
la
ça comme
piste.
ça,
Voilà.
regardez.
Bonjour tout le monde, et salut tous les téléspectateurs françaises et français, je suis pas sexiste, et spécialement mes amis Jérôme Sédoux, Silvio Berlusconi et la nouvelle chaîne 5. Nous vous souhaitons, tous les artistes, tous les techniciens de Thames Télévision, vous souhaitons un grand succès avec la nouvelle chaîne 5. Salut, vive la 5!
Qu'est-ce que ça fait du
Mais
bien,
oui, c'est
Bénil!
Bénil, oui, voilà. Alors, ça fait partie d'un dans toute la soirée inaugurale de la 5 que j'ai eu la chance de trouver sur une cassette. Vous savez que je numérise comme un taré depuis une trentaine d'années maintenant. Et vous pouvez imaginer ma joie quand j'ai trouvé ce petit filon. Toutes les chaînes, tous les pays se succèdent. Bon, là, j'ai mis Bénil parce que ça nous fait marrer. Il parle en français et puis c'est sa vraie voix. Il parlait bien français, hein.
C'est le vrai comédien Bénil, évidemment, que l'on connaissait grâce au show qui était diffusé notamment sur
Sur
FR3.
FR3, voilà, tous les dimanches à 20h. Et donc, il y a la télé chinoise, il y a la télé. Enfin, voilà, il y a tous les pays, Brésil, juste après Bénil. Et tout le monde se succède comme ça pour souhaiter la bienvenue à la 5. Et Bénil cite Jérôme Sédoux et puis Silvio Berlusconi,
Alors
quoi.
oui, parce que ça, pour
Voilà.
celles et ceux qui ne connaissent pas cette chaîne,
Ouais.
c'est la spécificité, c'est que la 5, c'est un peu le duplicata d'une chaîne qui existait en Italie
Voilà.
et qui était initiée par Silvio
Voilà,
Berlusconi.
Canale Cinque dans le texte, et effectivement, Silvio Berlusconi voulait reproduire le même schéma, et le côté un peu bling-bling, hein, des premières années de la 5, avec ce genre de show, avec des paillettes, des danseuses de
Et beaucoup
partout,
d'argent.
et beaucoup d'argent.
Et beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est la spécificité, on aura certainement l'occasion d'en reparler quand on mentionnera peut-être plus spécifiquement les dessins animés, mais cette proximité avec l'Italie explique pourquoi, par exemple, des génériques des séries animées de la 5 en Italie retrouvaient les mêmes sons, les mêmes musiques, ou pas d'ailleurs
Ouais.
parfois, que ceux diffusés en France,
Et
avec notamment Claude Lombard ou Christina D'Avena.
Absolument. Et les fastes que l'on pouvait voir à l'écran étaient souvent dus au studio, parce que c'était tourné à Milan, certaines émissions. On avait l'impression que c'était nous en France, parce qu'on regardait ça d'un œil nouveau. Mais c'était déjà sur place, avec déjà la grandiloquence qui était installée depuis plusieurs années, en fait.
Alors, la spécificité de la 5, c'est que elle a marqué évidemment toute une génération par ses séries, ses programmes, ses émissions. Mais la première spécificité de la 5, c'est qu'il fallait la voir.
Voilà, c'était une galère en
C'était une
fait.
galère totale pour la voir.
Ouais, c'était cette première, effectivement, particularité, c'est qu'on avait des antennes râteaux avant sur le toit des maisons, et on pouvait capter avec un seul râteau que trois chaînes. Et donc, le problème se posait, Canal+ émettait sur l'UHF, il y avait le VHF et l'UHF, si les gens s'en souviennent, les petits fils qu'on mettait coaxiaux, qui étaient soit soit blanc, soit vert, dans la télé de papa, maman ou papy, mamie. Et la 5, voilà, posait problème parce qu'il fallait donc étendre ses râteaux. Et pour pas s'en prendre un, bah, il fallait, allez, je me permets, il fallait donc...
Ça commence.
Il fallait étendre l'émission de cette grande chaîne à tout le territoire français. Au départ, il devait avoir la Tour Eiffel pour émettre, et ça ne s'est pas fait parce que c'était un grand problème de débat politique, et il y avait des petits coups bas comme ça que chacun se faisait pour empêcher la 5 d'émettre pleinement. Et la 6, M6, peu de temps après, a eu le même problème. Donc il y avait même des autocollants qui avaient eu lieu, qui étaient sortis en disant: vous captez mal la 5 et la 6, contactez-nous. Et voilà, là je vous ai trouvé une petite pépite
parce que pour recevoir la 5, bah, le mieux c'est de suivre les conseils qui vous étaient donnés sur la 5.
Sur la 5.
Ce qui est un paradoxe, parce que si une fois que vous avez vu la 5, ouais, bah, vous n'avez plus besoin de conseils pour savoir comment la recevoir. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est ça qui a alimenté aussi l'antenne, avec des moments restés cultes dans l'imaginaire collectif, et voici l'un de ces clips.
Faites la chaîne pour votre chaîne. Expliquez à vos amis comment bien recevoir la 5. Bien recevoir la 5, c'est d'abord une question d'antenne. Avant tout, dirigez bien votre antenne vers votre émetteur télé. Si la 5 émet sur un autre émetteur, il vous suffit d'ajouter un râteau et de bien l'orienter. Il suffit aussi souvent d'un simple réglage de poste, alors branchez-vous sur le programme numéro 5. Si le téléviseur est équipé d'une recherche par télécommande, laissez la télécommande chercher. Si le téléviseur est équipé d'une recherche automatique intégrée, laissez le téléviseur chercher. Si le téléviseur est équipé d'une recherche manuelle, eh bien, tournez la molette jusqu'au bon canal. Vous voyez, c'est simple. Toutefois, en cas d'ennui, consultez votre antenniste ou téléphonez au 47 47 74 44 ou Minitel 3615 la 5. Recevoir la 5 ? Facile.
Il y a tout dans cette vidéo, il y a y compris les anciens numéros de téléphone. Je parle pour la jeune génération, avant qu'il y ait le fameux 01 qui se décline pour augmenter le nombre de numéros de téléphone. Il y avait le numéro de téléphone standard, et puis si on appelait de la province, il fallait faire le 16 et le 1.
Absolument, ouais. Et puis il y a comme ce clin d'œil avec une cigogne qui, donc la nouvelle chaîne, le nouveau bébé qui était livré un petit peu partout. C'est quand même mignon, quoi, ça.
C'est quand même trop mignon. Il faut expliquer, Arnaud parlait d'enjeux politiques. Il faut dire qu'en 1986, quand la 5 arrive, on est au bord de la cohabitation. Ouais. François Mitterrand a été élu président de la République, mais il va perdre les élections législatives pour porter la droite au pouvoir. Jacques Chirac sera le premier ministre de la France, avec cette guerre, cette rivalité qui est que Jacques Chirac voulait privatiser l'une des deux chaînes françaises, TF1 ou Antenne 2. Son choix se portera sur TF1, et donc je pense que Mitterrand lui a coupé l'herbe sous le pied en créant sa propre chaîne aussi à lui, et c'était la 5.
Oui, voilà, il voulait absolument avoir le monopole du peuple, comme il le disait si bien dans un autre discours, et effectivement c'était ça. Et Jacques Chirac, bon, bah, forcément il y avait cette guerre déjà installée évidemment à l'époque. Et Mitterrand a fait une sorte de caprice, quoi, et ça a fonctionné.
Ça s'appelle un hold-up.
Un braquage de la
5. Un braquage télévisuel. Ouais. Alors, quand on rentrait dans la 5, évidemment, Arnaud a pris soin de garder tout l'habillage qu'il y a autour pour qu'on puisse se replonger dedans. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans le dur des sujets de la 5 et des programmes de la 5. Il y avait notamment cette particularité qui nous a tous marqués, c'est la façon dont les programmes de la semaine pouvaient être annoncés.
Oui,
avec un semainier, comme on disait,
c'est ça,
de programmes qui étaient annoncés, qui avaient tous les genres étaient concernés d'ailleurs.
Oui, oui, et ce semainier était pour la forme assez copié par TF1, donc, parce que beaucoup critiquaient la 5, mais finalement ça marchait bien, donc ils se disaient, bon, finalement, on va peut-être faire
pareil. Regardez, ça marche toujours, ça.
Et la particularité de la 5, c'est qu'elle était quand même assez rebelle, parce qu'ils avaient des injonctions, parce qu'ils passaient trop de films. Ils étaient aussi en porte-à-faux par rapport à Canal+, qui avait un accord pour passer les films 6 mois après le cinéma, si j'ai pas de bêtises, ou un an, je me souviens
plus.
Peut-être, ouais. Mais en tout cas, la 5, souvent, leur grille la priorité et passer un quota de trop de films. Donc là, ils ont décidé de faire un semainier, et vous regardez bien à la fin de la ligne du film qui est cité pour chaque jour, c'est soit marqué TV pour un téléfilm, donc, ou alors si pour un cinéma.
Regardez à quoi ressemblait cette annonce de programme de la 5. Il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre, on va pas se mentir.
Ah non, mais bon.
Mais voilà.
Mais avant de le lancer, il y a une petite mention particulière pour les jeux de mots un peu pourraves quand même, quoi, entre sexiste et raciste, on est pas mal.
Et c'était l'époque des années 80, hein, voilà. Vous nous en voudrez pas, on retransmet les choses telles qu'elles étaient à l'époque.
Voilà, on n'est pas responsable.
Voici le semainier.
Demain soir, retour vers l'enfer, pour délivrer les prisonniers du camp de la mort, une seule loi, la loi de la jungle. Lundi, le professeur entre au couvent. les membres d'une secte criminelle défient le flic Bud Spencer. Ça va être leur fête de charité. Mardi, le Chinois. Jackie Chan et ses copains infligent au mauvais garçon une pâtée impériale. Mercredi, double jeu. Énigme en forme de suicide pour Chimansky. Mais plus il creuse et plus il risque de se retrouver six pieds sous terre. Demain soir, retour vers l'enfer. Lundi, le professeur entre couvent. Mardi, le Chinois. Mercredi, double jeu. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film.
Tous les soirs, un film. Je précise, Chimansky, d'ailleurs, c'était une série. Mais
c'était une série, oui. La particularité de la 5, c'était aussi de balancer des pilotes ou des versions longues d'épisodes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, ou prolonger une série qui avait été diffusée historiquement sur TF1, Antenne 2 ou FR3, et donc d'attirer de nouveaux clients grâce à ça.
Mais aussi de proposer des séries qui étaient des ovnis, des pépites qu'on n'avait vues nulle part. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec certaines séries, parce que si la 5 a proposé la télévision telle qu'on la voyait dans les années 80 avec son lot de séries de divertissement pures comme K2000, Supercopter, voilà, elle a aussi ouvert la voie à des pépites qu'on découvrait en prime time chez nous, dans un ordre certain, mais quand même en prime time. Ouais. Et c'est le cas de la série qu'on va voir maintenant.
Oui, c'était digne héritière. Bon, c'est Steven Bochco qui est derrière aux manettes, et on a vu Captain Furio qui était dans les premières heures de la 5. Effectivement, on a eu cette pépite. Je trouvais ça sympa qu'on montre aussi des choses qui ne sont pas forcément sorties en DVD actuellement. Et voilà, qu'on n'a pas revu. Hein. Donc
ça s'appelle La Loi de Los Angeles.
Ouais, on a un petit chapelet de quelques séries sympas là qui approchent.
Voilà le premier, La Loi de Los Angeles, petit extrait évidemment pour cette série. La Loi de Los Angeles, LLO, de Steven Bochco, c'est l'une des très très grandes séries des années 80. Elle appartient à cette vague de séries initiées avec Hill Street Blues ou Saint Elsewhere, qui appartient à ce que les Américains ont appelé la quality TV, c'est-à-dire vraiment ces séries produites de qualité et qui visent un public particulier, qui sont les 15-49 ans, le public un peu cible, tout un peu qualitatif, parce qu'il permet d'engranger aussi des recettes commerciales. Et c'est vrai que cette série a été magistrale, elle a duré 8 saisons, je crois, et elle est sortie au DVD aux États-Unis, que moi j'ai la chance d'avoir le coffret de la série américaine, et parce que c'est vraiment une grande pépite, une grande série judiciaire qui en a inspiré tant d'autres.
Oui, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est comme Hill Street Blues. En fait, on s'attache, c'est un cabinet d'avocats, l'histoire, et ils vivent chacun donc soit des péripéties humainement dans leur vie privée, soit professionnellement, parce qu'il y a un truc assez incroyable qui se passe. Ils sont très attachants, et c'est cette force de Steven Bochco d'aller dans les entrailles des personnages et de nous le montrer sur des facettes qu'on n'avait pas forcément vues avant.
Et surtout, c'est les séries chorales, c'est-à-dire avec plus d'un de héros tels qu'on les connaît aujourd'hui et que vous les connaissez tous. C'est un petit bijou, hein. Si vous avez l'occasion de la découvrir, allez-y. Autre série qu'on pouvait suivre et qu'on pouvait encourager sur 3615.
La 5,
parce qu'aujourd'hui on parle de la 5, ça c'était pour les gimmicks qui apparaissaient aussi à l'antenne, Le Voyageur, et alors là c'est une coprod.
C'est une coprod, oui, voilà, il faut mettre aussi en avant le fait que la 5 était force de projet et de proposition, et il y avait pas mal de séries coproduites, et dont Le Voyageur, qui était un mix entre la quatrième dimension, alors on a eu la cinquième dimension sur la 5 aussi, et ce Voyageur a la particularité pour nous qui sommes des enfants des années 80 d'être coproduite par Jean Chalopin. C'était la Dick qui était derrière, et la musique, il y avait Saban, enfin voilà, on retrouve tous des noms qui pepsent dans notre tête.
Donc le créateur, pour celles et ceux qui connaîtraient des mystérieuses cités d'or ou de l'inspecteur Gadget, par exemple.
Oui, de Jace, de tout ce qu'on veut, et de Mask, dont on parlera aussi bientôt. Et donc voilà, j'ai pas résisté au fait de vous remettre ce générique.
Et parmi les autres coprods, je souligne, moi, il y en a une que j'avais beaucoup aimée, qui s'appelait Les Deux Font la Loi, et qui arrivera, mais plutôt vers la fin de la 5, qui était un western entre les États-Unis et le Canada. Mais restons sur le voyageur avec ce générique assez peu connu finalement,
oui.
Mais qui a fait son petit bonhomme de chemin. On le regarde, c'est pour faire plaisir, regardez. Moi, je pense que celle-là, je suis passé au travers.
Mais... Ah ouais, alors l'explication, c'est donc ce voyageur, c'est un autostoppeur qui parcourt les États-Unis, on suppose, et il y a un petit côté Rod Serling parce qu'il arrive au début en disant, vous voyez ce mec là qui me prend en stop, bon bah il va lui arriver un truc assez incroyable, et on plongeait comme ça dans un mélange de Twin Peaks hein, que tu aimes bien. Il y a des mélanges de bien sûr de quatrième dimension, du côté inquiétant quoi, qu'on reprend souvent dans certaines séries anglaises comme de thriller ou ce genre de choses qu'on appelle Uncanny en anglais, ou le Unheimlich en allemand, c'est des trucs qui nous parlent, mais une sorte de déjà-vu dérangeant. Et ouais. Il y avait ça dans cette série, avec des histoires vraiment qui font grincer des dents et qui se terminent pas forcément bien.
Ça, c'est bien aussi.
Ouais, c'est vachement bien d'avoir ça. Dès qu'on voyait que ça arrivait, ça durait pas très longtemps. Un épisode dure 20, 25 minutes, 30 minutes avec la pub, parce qu'il y avait les pubs sur la 5, on en a pas encore parlé, mais ça va arriver.
Mais alors, je me demande si quand même cette série est pas moins inquiétante que celle qui vient.
Alors, oui, bon.
Parce que celle que vous allez voir, elle est quand même très malaisante, mais rien qu'avec le générique.
Oui.
Là, c'est parce que, bah, comme toute chaîne de télévision, la 5 manquait de quotas de production française.
C'est ça. Donc
il fallait produire un peu tout et n'importe quoi.
Il fallait produire. Alors, au début, ils sont allés voir au Canada, pour nos amis québécois, parce que c'était déjà en langue française, donc il y avait un problème de... Enfin, en moins d'adaptation. Mais ils se sont dit, pourquoi pas. Bon, vous avez découvert chez vous, je pense que vous savez de quoi on parle. On regarde le générique.
On regarde le générique, ça s'appelle... Bon, regardez.
On regarde,
regardez.
Oui.
C'est pesant, hein. C'est quand même une très belle musique classique et tout, mais alors?
Non, d'un point de vue très commercial, mettre une musique classique, c'est libre de droit, vu que c'est tombé dans l'idée du folklore. Et puis faire des plans de Paris, ça coûte rien non plus. Donc déjà, on a eu un petit peu une idée du.
Mais là, on a l'impression d'un stalker qui suit quelqu'un jusque dans un immeuble où il y a une fille qui va se faire assassiner au bout du truc par Guy Georges, quoi. Voilà. Tu vois, c'est terrible.
Non, et puis les scénarios étaient fantastiques. C'est-à-dire qu'il y avait un cast d'acteurs qui voulaient percer, donc pas forcément très très connus, ou wannabe ou never will be, ce genre de choses. Et on leur disait, écoute, t'attends un coup de fil. T'as faim, t'as une boîte de thon et t'as un coussin sur ton canapé, démerde-toi. Désolé, mais en gros, c'est ça. Et il lui disait, ta scène dure 4 minutes 39, et vas-y. Et alors, ce qui est fou, c'est que le mec disait, ah, dis donc, bon, bah, qu'est-ce que, bah, j'ai faim, moi. Et puis, il n'y avait pas de texte par cœur.
C'est-à-dire
et...
que si vous connaissez le jour où tout a basculé ou pas de secret entre voisins en ce moment, ouais. Et ben, ça, c'était certainement mieux joué que voisin-voisine de l'époque.
Ouais. Et le pire, c'est quand il y avait une interaction, parce que l'un, chacun ne savait pas ce que l'autre allait dire. Donc, il disait, ah bon, ça te fait rire, toi? Oui, ça. Et toi, ta femme, ça va? Et enfin, bon, et c'était insupportable. Parfois, certaines personnes quittaient la scène parce qu'ils en avaient marre et on voyait qu'ils re-rentraient dans le champ. Parce on les repoussait pour enfin bon c'est voilà c'est cultissime voisin voisine c'est
ah c'est énorme ça fait partie des grandes heures de la scène je sais pas si on a envie de s'en souvenir mais c'est cultissime
il faut avoir souffert au moins une fois devant un épisode mais on a envie d'en revoir il y a un goût de reviens-y étrange comme ça de...
il est maso ce garçon mais vous allez voir on poursuit et on finit en beauté ah bah. Sur cette ambiance malaisante ah oui. Avec l'un des rendez-vous iconiques de la 5, c'était le jeudi soir, je crois.
Quitte à se faire mal, voilà, bien
le
sûr.
Le jeudi soir, en deuxième partie de soirée.
On passait un accord.
Un accord salé. Voilà. Regardez.
C'est ça, les accords du diable. Les victimes ont toujours raison. On les voit crier, pleurer, hurler, appeler leur bourreau, fuir ou les supplier d'en finir.
On ne sait pas si c'est un truc fantastique ou si c'est le film érotique du dimanche soir.
Il y a un côté glam gothique, quoi, qui romantique comme ça, qui met en avant. Et puis bah, Catherine Falguera qui est géniale dans la présentation dans le rôle de Sangria. Et puis bah, pour tous les fans aussi de Nanar et de Gore, c'était vraiment une des toutes premières fois qu'on voyait ça à la télé. Quoi. Ils ont passé Hurlement, ils ont passé des
Vendredis. Il y avait un 13. Film derrière.
Voilà. Et puis après, avant, pendant et après, Sangria, il y avait une petite rubrique qui montrait, parce que c'était l'émergence des vidéoclubs aussi dans les années 80, et il y avait les films qui sortaient comme ça en cassette directement, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas diffusés ni sur TF1, ni sur Antenne 2, ni sur FR3, parce que c'était trop. Et il y avait le carré blanc pour certaines choses, mais pas pour tout. Et donc, voilà, c'était génial. On a vu des images de Freddy, on a vu des images de tout ce qui est devenu culte aujourd'hui, c'est passé dans les accords du diable.
Je me demande si c'est pas dans cette émission-là qu'on a vu aussi la série d'anthologie Freddy Krueger. Il y avait des produits, il me semble. Dans lequel on ne voyait pas Freddy, c'était la particularité. Mais...
Ouais, la 5 mais a voilà. Passé aussi une série qui s'appelait Vendredi 13, qui n'a rien à voir avec les films. Et c'était une boutique des horreurs.
Un peu comme les contes de la crypte. Quoi.
Voilà, un peu comme les Conjuring, vous savez, les dossiers Warren. Un grand-père avait conservé tous les objets maudits depuis toute sa vie. Et en fait, à sa mort, les enfants n'ont pas compris, les héritiers n'ont pas compris, ils ont revendu tous les objets. Et donc, les héros repartent à la recherche des objets vendus pour les remettre dans la boutique.
En sécurité.
Voilà, c'est génial.
Et Catherine Falguerac, vous avez vu là en animatrice, finira ensuite sur TF1, notamment je crois au télé-shopping.
Ouais, on l'a vu dans
au télé-shopping. Ouais. Avant-dernière pépite de cette émission, il y avait aussi ça sur la 5. Beaucoup en tant que chaîne purement privée et donc purement commerciale, il fallait alimenter avec de la pub. Absolument. Et parfois, quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah, les pubs, elles reviennent, et elles y sont encore. Regardez.
Celle-ci est passée beaucoup.
Voici la nouvelle Candy Alizée. Grâce à elle, fini la corvée du linge à sécher.
Bonnie, elle est prête! Faut lui faire la fête, nouvelle Candy Alizée, plus de linge à sécher.
Ah, la nouvelle Candy Alizée, le linge est lavé et grâce à son puissant jet d'air chaud, elle sèche. Tout ça pour 3 990 francs.
Nous sommes bien prêts, lavé et séché, Candy c'est si bien faire un Candy Alizée.
Merci Candy.
C'est vrai qu'en l'écoutant, je me dis, c'est vrai que je l'ai entendu souvent.
Ah bah, merci Candy. Oui. Bah, il y avait ça, il y avait Norwich Union, Pépé, je peux lécher la casserole. Enfin voilà, ça passait en boucle parce que ça coûtait pas cher. Et donc, des produits qui n'avaient pas accès aux grandes chaînes, forcément, allaient sur la 5. Et on avait d'autres pubs, ce qui n'est pas plus mal parce que voilà. Ça...
On vous en reproposera d'autres.
Oh oui. Voilà.
On vous en reproposera d'autres parce qu'il y en a plein. Il y en a plein et on fera des émissions évidemment sur la 5. C'est la première pour ouvrir le bal. Mais on va en faire d'autres. On va terminer avec une dernière pépite, un dernier moment. On vous le fait découvrir parce que ça se passe toujours comme ça et on en reparle.
Je crois qu'elle vient, la pépite.
Elle vient, la pépite.
Elle vient ou elle vient pas
Elle vient, regardez.
Gag.
Elle vient.
Non, elle vient pas.
Si, elle vient.
Ah.
Non, elle ne vient pas.
Oh. Alors, elle vient ou elle ne vient pas?
Mais bien sûr qu'elle vient.
Mais non, tu la connais, elle ne viendra pas.
Elle vient.
Ah.
Oh. Elle ne vient pas.
Hé, hey, ça suffit maintenant, hein. Vous allez m'arrêter ce sketch idiot. Hein, on va quand même pas gaspiller l'argent des téléspectateurs, non? Bon, d'autant plus que je peux vous le dire, elle vient.
Veux-tu?
Eh bien non, Colaro, justement, elle vient pas. Ena.
C'est la meilleure illustration de cette expression. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.
Bah oui.
Et les équipes de Colaro, évidemment, qui ont été très présentes aussi sur TF1, sont passées par la 5. Absolument. Vous avez peut-être vu Claire Nadeau, oui. Mamissus, pour celles et ceux qui connaissent plutôt les tuches. Et puis toutes les équipes.
Jacques Brière, qu'on embrasse, qui était le docteur Sinoc, voilà, Pitéric. Effectivement, on voulait terminer cette émission avec aussi l'importance qu'a eu la 5 pour la venue de certains grands noms, parce qu'on leur a fait un pont d'or, hein, tout simplement, pour venir sur la 5. Donc il y a eu Patrick Sabatier. Il y a eu Patrick Sébastien, il y a eu Colaro, il y a eu Philippe Bouvard, il y a eu Thierry Ardisson qui faisait Bain de minuit.
Patrick Simpson-Jones.
Patrick Simpson-Jones.
Là, il l'a annoncé, il nous l'avait dit en interview, on dit j'y suis allé pour l'argent et je ne suis pas resté.
Et, évidemment, mais. Michel Robb, voilà. Et comment résister? Parce que parfois, on leur multiplie leur salaire par 5 sans mauvais jeu de mots. Et donc, on n'hésite pas longtemps. Si en un mois, tu gagnes 5 mois, bon.
Tu vas sans réfléchir.
Voilà, on se dit, bon, si c'est pour faire la même chose, voilà. Alors, ça n'a pas marché, ça a fait un flop. Donc, beaucoup sont restés très, très peu de temps, mais parfois quelques mois. Et là, on a vu un extrait de Colari Coco Show, une sorte de déclinaison de tout ce que Stéphane Colaro avait fait.
De Cowboy.
Voilà. Et voilà, moi, je suis toujours assez fan de ce que fait Stéphane Colaro, j'assume
tellement. C'est pas tellement de bon goût. No. Ça marcherait peut-être plus aujourd'hui, oui, mais ça existait à l'époque.
La preuve, elle est venue.
Bon. Ou pas. En tout cas, cette émission, elle est venue.
Oui.
J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder, parce qu'elle reviendra. Et ça, on peut vous le dire. Bon. Ça s'appelle Croque le Club. Enfin, peut-être pas, je sais pas.
T'es sûr?
Mais je sais pas. Mais Croque le Club, c'est fini pour cette semaine.
Ça passe vite.
On était ravis de vous retrouver. Ravis d'être avec toi, mon nono. Mais
merci,
évidemment,
Alexandre.
On est là pour vous accompagner. Et on espère vous retrouver très très vite avec une autre émission, une autre déclinaison de Croque le Club. Merci à tous.
On vous embrasse.
De nous avoir suivis. Merci.
Ouais. Merci.
Tu viens?
Oui, je... Attends, j'ai un...
Non, viens pas.
Ah non, elle vient pas.
Générique, c'est parti. À bientôt.